chasse. Nos cerveaux excités à l'envie pour défaire la vie. Ce triste, la vie serait moche. Alors, je fume, je bois et j'écris. Les mots sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débat, livre et combat.
Monsieur,
je porte un toast à tous ceux qui on luttait pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée. À tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveaux disponibles de part de tranches de cible. À tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le greffe comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mer. Pour que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Pas se faire d'illusions, mais c'est mieux debout pour l'action.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse. Autour du garrot.
C'est toujours Radio Libertaire, c'est toujours 89,4 MHz. Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité. C'est l'émission Idéaux et débats du jour qui commence avec au programme deux auteurs aujourd'hui. Deux auteurs autour d'une même thématique, une thématique assez douloureuse puisqu'il s'agit de la négligence à enfants. Au travers d'un très très beau roman de Béatrice Hammer qu'on va retrouver dans quelques instants, roman intitulé La Reine des Neiges, paru aux éditions Avalon et compagnie. La Reine des Neiges avec une très très belle couverture, une photo magnifique. La Reine des Neiges, un conte qui n'est pas aussi réducteur que dans le film qui en a été tiré. Et en même temps, c'est un roman très personnel de Béatrice Hammer qui m'a beaucoup touchée. Et en deuxième partie d'émission, on retrouvera Charles Dupéché pour un livre qui est paru aux éditions Mercure de France qui s'intitule « Daniel List ». Un fils mal aimé, et tout est dans le titre, puisqu'on entendra parler de cet enfant qui est né de l'union entre Liszt et Marie Dagou et qui a été fort maltraité. Voilà, on retrouve tout de suite Béatrice Hammer, La Reine des Neiges, aux éditions Avalon.
Tu pourras me dire tout ce que tu veux, sous tes faux rires et tes grands airs. C'est pas la peine, tu peux mentir à qui tu veux. Tu souris trop pour être heureux, tu me fais de la peine. Je t'aime quand même, moi. Je suis pas tes potes, ni ton boss ou tes collègues, moi. Mais tu me prends vraiment pour un con. Tu crois que tu m'endors, mais même derrière ton masque, tes cernes en parlent encore.
Tu n'as pas sommeil. Le froid, la soif, la dalle, t'as tout mais tu n'as pas sommeil. Ta mère, ta femme, ta fille, t'as nous mais tu n'as pas sommeil. Ton toit, ton taf, ta caisse, tes sous mais tu n'as pas sommeil. La vie, santé, bonheur, avoue que tu n'as pas sommeil.
sortais prendre l'air. Au lieu de me prendre pour de la merde, prends-moi la main, sinon à quoi on sert nous? À part faire la fête, mec je l'ai assez faite moi, on se voit demain.
Mais si je comptais, je compterais pour toi. Je te compterais mes histoires et je compterais les moutons pour toi. Mais si je comptais, je compterais pour toi. Je te compterais mes histoires et je compterais les moutons.
Mais tu n'as pas sommeil. Le froid, la soif, la dalle, t'as tout mais tu n'as pas sommeil. Ta mère, ta femme, ta fille, y'a nous mais tu n'as pas sommeil. Ton toit, ton taf, ta caisse, tes sous mais tu n'as pas sommeil. La vie, santé, bonheur, avoue que tu n'as pas sommeil.
Le froid, la soif, la dalle, t'as tout mais tu n'as pas sommeil. Ta mère, ta femme, ta fille, y'a nous,
mais tu n'as pas sommeil. Ton toit, ton taf, ta caisse, tes sous, mais tu n'as pas sommeil. La vie, santé, bonheur, avoue que tu n'as pas sommeil. Le froid, la soif, la dalle, t'as tout, mais tu n'as pas sommeil. Ta mère, ta femme, ta fille, y'a nous mais tu n'as pas sommeil. Ton toit, ton taf, ta caisse, tes sous mais tu n'as pas sommeil. La vie, santé, bonheur, à vous.
C'est toujours pour Radio Libertaire 89,4 MHz, Idéo et Débat, avec la grande joie de retrouver Béatrice Hammer pour un nouveau livre qui est paru aux éditions Avalon, qui maintenant est votre maison d'édition, et pour le plus grand bien d'ailleurs. Et ce livre s'intitule La Reine des Neiges. Alors il est un petit peu différent des précédents. Mais moi j'ai beaucoup aimé ce livre parce que c'est un récit comme on en a rarement lu et moi ça m'a particulièrement touchée. Alors on va dire un mot, Béatrice Hammer, de ce titre La Reine des Neiges, parce que je le trouvais extrêmement bien trouvé. Et on va rappeler pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas l'histoire, le conte de La Reine des Neiges, de quoi il s'agit, si vous voulez bien.
Oui, oui, alors ça n'a vraiment aucun rapport avec le film de Disney.
Non.
qui porte le même nom. Donc c'est un conte d'Andersen qui est assez, assez particulier en fait, assez étonnant. C'est un conte qu'il a écrit très rapidement d'après ce qu'il a pu en dire. Et donc c'est un conte qui commence avec le diable qui fabrique un miroir. Et ce miroir a comme caractéristique qu'il transforme tout ce qui est beau en choses laides. Il met du mal partout en fait. Hein. Voilà. Et donc le diable est ravi d'avoir fabriqué ce miroir qui lui permet de rendre le monde vraiment laid et de faire souffrir tout le monde. Enfin donc il est tout à fait content. Et ces diablotins qui sont ravis aussi prennent le miroir et monte pour aller jusqu'à Dieu, pour que Dieu se regarde dans le miroir du diable. Mais évidemment, ça peut pas marcher, et le miroir éclate. Et en fait, le problème, c'est que en éclatant, et donc du fait de l'action de Dieu, c'est bien pire, parce que ce qui se passe, c'est que au lieu d'être concentré en un seul endroit, ce miroir explose en milliers d'éclats. Et tous ces éclats de miroir vont retomber sur la terre et se ficher dans les yeux, dans le cœur, dans des hommes, et rendre de cette façon laid tout ce qui est beau et triste, tout ce qui est gay, etc. Voilà. Et donc, le conte d'Andersen commence comme ça. Et puis, on passe ensuite à l'histoire de deux enfants qui s'aiment tendrement, qui sont deux enfants charmants, etc. Et eh bien, le petit... Alors, je ne sais pas comment on prononce, ça s'écrit K-A-Y, je ne sais pas si on dit Kai ou Kay. Moi, je dis Kay, mais peut-être c'est pas la bonne prononciation. Donc, le petit garçon reçoit un éclat dans son cœur et un dans son œil. Et il se met donc à devenir méchant, ironique, à trouver sa petite camarade vraiment, ridicule, moche, etc. Et il se met à la faire souffrir. Et alors, de façon, c'est vraiment un conte étrange parce que parallèlement à ça, en fait, la Reine des Neiges se promène. Sur son traîneau. Et alors, la Reine des Neiges, donc, c'est une figure, très belle, glaciale, dure, inhumaine, mais pas méchante pour autant. Enfin, elle est plus neutre que méchante. Et elle se promène et le petit Kay qui passe par là s'accroche à son traîneau avec sa luge pour se faire tirer, là, comme... Les gamins se font tirer en skateboard par des bus aujourd'hui. Et puis, il finit par monter dans le traîneau de la Reine des Neiges et par repartir avec elle dans son palais. Et en fait, dans son palais, il va peu à peu son cœur est déjà glacé. Et en fait, il se retrouve prisonnier des glaces, du froid. De l'absence de vie, de l'absence d'émotion, etc. Et donc, pendant ce temps-là, la petite fille, même s'il était devenu méchant, elle aimait toujours le petit Kay, donc il a disparu et elle part à sa recherche. Alors là, on a un conte un peu classique avec des épreuves où elle va rencontrer une personne, l'autre, etc. Et à chaque fois, on va l'aider dans sa quête. Enfin, là, on arrive sur une structure très traditionnelle de conte, en fait, jusqu'à ce qu'elle arrive dans le palais de la Reine des Neiges. Voilà. Et là, elle va retrouver le petit Kay, mais je vais peut-être pas raconter la fin.
Non. Alors, mais ce titre et cette histoire sont très bien choisis parce que, en fait, c'est pas du tout un livre de contes, il faut le préciser. Béatrice Hammer, que La Reine des Neiges, paru chez Avalon, c'est un livre sur votre mère et qui commence par le fait que vous apprenez sa mort et que ça ne vous fait pas pleurer. Parce que justement, pour vous, elle est morte depuis très, très longtemps. Et vous allez dresser un parallèle entre ce conte, entre ce personnage cette version d'Andersen et ce personnage qu'est votre mère, que vous allez nous faire découvrir dans tous ses aspects. Et c'est ça qui est intéressant parce que on va voyager au travers de votre livre, on va voyager au travers des yeux de la petite fille, de la fille que vous êtes et qui a vu cette mère glaciale, terrible, négligente, maltraitante. Et en même temps, on va voir émerger aussi le portrait d'une femme qui va apparaître en creux avec toutes ses dimensions et sa complexité. Et moi, j'ai été particulièrement fascinée par ce livre, de par la douleur qu'on y perçoit, et en même temps par ce chemin de découverte et de réappropriation d'une histoire par l'écriture.
Oui, c'est tout à fait ce qui s'est passé. C'est vrai que habituellement, mes livres sont toujours de la fiction, même si on met toujours beaucoup de soi dans de la fiction. Mais j'avais, en fait, c'est un petit peu en réfléchissant a posteriori à pas mal de mes livres, je me suis rendu compte qu'il y avait toujours dans mes romans des figures maternelles défaillantes. Alors que ce soit des mères qui meurent brutalement, ou que ce soit des mères qui abandonnent leurs enfants, ou voilà, ou que ce soit des mères très dures, très ou des grands-mères. Enfin, parce que dans mon premier roman, la figure maternelle, elle est un petit peu partagée en deux, avec une mère qui a abandonné sa fille et une grand-mère qui, elle, est restée, mais qui est vraiment extrêmement dure. Et donc, je me suis rendu compte que c'était vraiment probablement un des moteurs de mon écriture, qu'il y avait quelque chose là dont j'avais besoin de réinventer, d'apprivoiser, j'avais besoin de tourner autour. Et ben, peut-être arrivé à mon âge, je me suis dit, enfin voilà, j'ai eu envie de regarder les choses vraiment en face. Et pour le coup, pas de faire de l'autofiction, c'est-à-dire pas de déformer des choses, etc., mais d'essayer de faire le texte le plus juste que je pouvais, sachant que, bien évidemment, j'ai ma vérité qui n'est pas la vérité. Mais j'ai, et disons, par un mouvement qui allait de l'extérieur, de la vision que j'avais de ma mère quand j'étais enfant, et même pas il y a pas si longtemps que ça, vu de l'extérieur comme une figure à la fois avec une sorte de perfection inhumaine et une sorte de comment dire, d'enfermement en elle-même que je sentais, et d'impossibilité de la toucher, enfin de voir qui elle était vraiment, sauf à de rares moments. Donc il y avait cette image-là, et en fait, au fil de l'écriture, et vraiment, ça s'est passé en plusieurs temps, parce que j'avais pas en tête tout le livre quand j'ai commencé à l'écrire, et je me suis beaucoup fait aider par une de mes filles qui relisait mon manuscrit et qui me posait des questions en me poussant dans mes retranchements, en disant, mais tu dis ça, mais en fait, et vraiment, il y a eu plusieurs fois où j'ai tout repris en me disant, oui, j'ai loupé quelque chose, il faut que je recommence.
Ça ne prévient pas, ça arrive. Ça vient de loin. Ça s'est traîné de rive en rive, la gueule en coin. Et puis un matin au réveil, c'est presque rien, mais c'est là. Ça vous ensommeille au creux des reins. Le mal de le vivre, le mal de vivre, qu'il faut bien vivre, vaille que vivre. On peut le mettre en bandoulière ou comme un bijou à la main, comme une fleur en boutonnière, juste à la pointe du sein. C'est pas forcément la misère, c'est pas Valmy, c'est pas Verdun, mais c'est les larmes aux paupières, au jour qui meurt, au jour qui vient. Le mal. Ou de Pékin, qu'on soit d'Égypte ou bien d'Afrique, ou de la porte Saint-Martin. On fait tous la même prière, on fait tous le même chemin, qu'il est long quand on doit le faire, avec son mal au creux des reins. Ils ont beau vouloir nous comprendre, ceux qui nous viennent les mains nues, nous ne voulons plus les entendre, on ne peut pas, on n'en peut pas. Alors seul dans le silence d'une nuit qui n'en finit plus, voilà que soudain on y pense à ceux qui n'en sont pas revenus. Du mal de vivre, leur mal de vivre, qu'ils devaient vivre, vaille que vivre, et sans prévenir, s'est promené de rive en rive, de rire en coin. Et puis un matin au réveil, c'est presque rien, mais c'est là, ça vous émerveille au creux des reins. La joie de vivre.
Donc, au fil de l'écriture, je me suis, en fait, j'ai fini par avoir une vision beaucoup plus intérieure du personnage de ma mère. Et en fait, c'est simplement un changement d'angle parce que je savais à peu près tout, mais j'y avais jamais réfléchi comme si c'était à moi que ça arrivait. J'avais jamais cru possible, en fait, que je pouvais me mettre dans sa peau, ou pour le coup, comme si c'était un de mes personnages. Et alors, bien sûr, on peut pas savoir, on peut pas, enfin, voilà, je pourrais jamais savoir jusqu'à quel point j'ai touché juste, mais je crois qu'il y a vraiment des choses que j'ai comprises, grâce à l'écriture et qui sont, qui pour moi sont justes. Enfin, voilà, il y a des choses qui se sont éclairées d'une façon tellement évidente que je me suis dit que c'était certainement que j'avais certainement là touché quelque chose de réel. Et du coup, parce que il y a des gens qui ont lu ce livre, qui ont lu le manuscrit ou qui ont lu là, il n'est pas encore, il sera sorti. Il sort le 6 juin, donc. Mais il y a des gens qui m'ont dit ça a dû être très très difficile, très douloureux d'écrire ce livre. Mais alors pas du tout, en fait, pas du tout. Ça a été difficile dans le sens compliqué parce que justement il a vraiment fallu que je change de posture. Mais ça n'a pas été douloureux. Ce qui était douloureux, c'était de vivre ce que j'ai vécu. Ça, oui, ça certainement. Mais par contre, l'écriture du livre et la progression, en fait, le fait d'arriver à avancer face à un mur lisse, arriver à trouver une toute petite faille par laquelle on arrive à se glisser, ça, au contraire, ça m'a vraiment apaisée. Ça m'a fait beaucoup de bien. Alors, mon but n'était pas thérapeutique. je veux dire, je pense que mes romans ont dû avoir un effet thérapeutique, certainement inconscient. Mais j'étais pas en souffrance quand j'ai commencé à écrire. Mais ça m'a vraiment, ça m'a vraiment apaisée. En fait, j'ai eu l'impression de comprendre des choses et de comprendre que parfois, j'avais pris contre moi des choses qui ne m'étaient juste pas destinées du tout.
Oui.
Et ça, je pense que ça, autant mon histoire est très spécifique, autant ça, je pense que ça
peut parler à tout le monde.
Oui, ça devrait pouvoir éclairer d'autres gens que moi, je pense, parce qu'on a toujours tendance à se mettre au centre, en fait. C'est ça que ça veut dire. Et ben en fait nos parents ils se mettent eux-mêmes au centre et quand ils font des choses parfois ils les font par rapport à eux-mêmes.
Et puis ils ont une histoire avant nous. C'est vrai qu'on a on a du mal à l'imaginer, mais c'est d'autant plus intéressant Béatrice Hammer que dans La Reine des Neiges, donc paru chez Avalon, il y a ce côté traversé du miroir et là en c'est le miroir des apparences. Et quand on sait l'importance des apparences dans votre histoire, dans l'histoire de votre mère, c'est d'autant plus intéressant. On peut préciser pour nos auditeurs qui n'ont pas le livre sous les yeux que c'est une photo de votre mère qui est en couverture du livre, que votre mère était d'une beauté resplendissante, un peu comme la Reine des Neiges, justement. Mais que il y avait toute un désir de perfection, de représentation, de sauvegarder les apparences, quelle que soit la situation, qui faisait peser une chape de plomb absolument considérable. Et justement, j'aimerais bien qu'on évoque ce poids des apparences.
Oui, bah, je pense que Il y a plusieurs explications à ça, mais je pense qu'on ne peut pas faire l'économie d'une explication sociologique. Je pense que sur les femmes, et sur les femmes en particulier de la génération de ma mère, donc qui était née en 1925, a pesé et pèse toujours un énorme poids. Elles doivent être conformes à, elles doivent être parfaites, elles doivent être conformes, elles doivent être, enfin il y a vraiment une pression sociale extrêmement forte, et qui dans le cas de ma mère était encore plusieurs fois amplifiée, d'une part par le fait qu'elle était immigrée, donc ma mère était c'est d'origine polonaise, et il faut savoir qu'à l'époque, donc mes grands-parents sont arrivés en France dans les années 20, on leur avait fait croire qu'en France, c'était tout le monde avait une voiture, c'était super et tout. Puis mon grand-père, il s'est retrouvé au fond de la mine à pousser des wagonnets ou à récolter du charbon. À l'époque, les Polonais étaient très mal vus. C'était les Polaques, etc. Et ma mère, elle a subi ça. Donc, elle leur racontait, c'était un événement un peu traumatisant pour elle. La première fois qu'elle est arrivée à l'école, elle parlait pas un mot de français parce que chez elle, on parlait polonais. Et elle a eu tous les enfants qui ont fait une ronde autour d'elle en criant « Ouh, la polonaise, ou la polonaise !» Voilà, donc elle partait de là, à la fois une femme qui devait donc mener un certain type de vie, avoir un certain type de morale, son itinéraire était tout tracé, et en plus une Polonaise qui devait donc montrer patte blanche et montrer qu'elle était intégrée et qu'elle était bien comme il fallait, qu'elle était comme tout le monde, etc. Et je pense que alors il y a ça, et en plus, en ce qui la concerne, elle a été plus ou moins recueillie pendant quand même très longtemps, et pendant toute la période la fin de l'enfance et l'adolescence et l'arrivée à l'âge adulte, pendant 12 ans, par une vieille demoiselle qui l'avait recueillie chez elle parce qu'elle était parfaite. Donc, si elle avait arrêté d'être parfaite, c'était la porte. Donc voilà, ça fait une triple pression, je pense, dont j'ai mieux compris en quoi ma mère l'avait subi et pas choisi. Parce que j'ai eu tendance, comme elle était très dure et comme justement au niveau des apparences, il était hors de question qu'elle montre qu'elle était faible ou qu'elle montre qu'elle cédait à la moindre pression. J'avais cette représentation de ma mère comme étant quelqu'un qui choisissait tout ce qui lui arrivait, ce qui est complètement faux. Évidemment, personne ne choisit tout ce qui lui arrive.
J'ai envie de fumer des américaines et de me rouler des jamaïcaines. J'ai envie de boire jusqu'à vaciller, jusqu'à ne plus voir qui va me déshabiller. Puis j'ai envie de partir en bateau avec des bandits vêtus en matelot. J'ai envie de rire, rire jusqu'à souffrir. J'ai envie de ça, mais je n'ose pas, car moi, je suis grande, je suis raisonnable, je donne l'exemple, je suis responsable. Je teins pas mes cheveux, j'ai pas de béquilles, j'ai le respect des vieux et de la famille. Je vais à l'église, je suis ménagère, je suis toujours bien mise et jamais vulgaire. J'ai pas eu de crise à l'adolescence. Faut qu'on m'intronise, qu'on me donne un sens. J'ai envie de trouver au fond de mon ventre une passion cachée, sauvage et brûlante. J'ai envie de courir toute nue sur une plage, imiter le soupir d'un grand coquillage. Et puis j'ai envie, envie de danser pour n'importe qui et me faire payer. J'ai envie de vivre plutôt de survivre. J'ai envie de ça, mais je n'ose pas, car moi, donne l'exemple. Je suis responsable, je fais pas de bêtises, je n'ai pas cette chance. Faut qu'on m'intronise, qu'on me donne un sens. Si elle ressemble à ça, la vie après la vie, j'envie ceux qui vont pas au paradis. Moi j'ai gagné mon ciel, comme disent les fidèles, qui ne s'offrent un péché que lorsqu'il est véniel. J'ai envie de crever ma bulle de cristal et de laisser rentrer quelques langues sales. J'ai envie de baisser mes bras de femme forte, envie d'accepter que la vague m'emporte. J'ai envie de troquer mes bonnes manières contre un peu de plaisir et un peu de poussière. J'ai envie de jouir, jouir jusqu'à mourir. J'ai envie de toi, mais je n'ose pas, car moi, bravo, je suis grande, je suis raisonnable, honnête et patiente, bonne et charitable. J'ai la tête froide, je m'oublie pour d'autres, mais c'est un cœur malade qui bat dans mes côtes. Je me sens petite, je me sens fragile, et j'ai l'eau bénite qui me monte au cil. Quand je te vois partir, parce que je t'ai chassé, comme pour me punir de te désirer.
Alors, elle a subi les apparences, mais elle les a imposées aussi. Et c'est ça qui est terrible. Oui. Et quelque part,
oui, elle a les intériorisées.
Elle les a intériorisées, elle les a fait subir à ses proches, à ses enfants, à son mari. Et quelque part, cette absolue de perfection, ce besoin d'être conforme à une image, l'a poussée déjà à fictionner sa vie. Ça, c'est le premier point. À toujours faire une fiction centrée autour d'elle et à toujours se construire contre les autres. Et donc, elle ne peut être que parfaite contre l'imperfection de ses enfants, contre l'imperfection de son mari. Et ça, c'est absolument terrible parce qu'il n'y a pas de place pour le lien. On est toujours dans une opposition, une rivalité, et il n'y a pas de place pour l'amour.
Oui, mais en réalité, ce que j'ai compris aussi, c'est que derrière ça, il y a en réalité un très grand manque de confiance en soi.
Oui.
Voilà. Et en effet, quand on a peur en permanence de pas être à la hauteur, on n'a pas la place. On est de créer du lien. C'est vrai. Ce que vous dites, je l'ai complètement vécu. Mais ce que j'ai compris en écrivant, c'est que ça non plus, c'était pas forcément un choix. Voyez. Et que quand on a une faille en soi, on n'est pas forcément capable de. C'était trop effrayant pour elle de sortir des apparences.
Oui.
Et il faut dire aussi que malheureusement pour elle, c'est vrai que les apparences, en tout cas quand elle était jeune, etc., elle avait vraiment tout pour elle, quoi, puisque comme elle était extrêmement belle et extrêmement intelligente, et enfin, elle avait pas, parce que pour se rendre compte que les apparences c'est pas très important, on est aidé quand on n'est pas parfait, quand on a des choses qui sont pas tout à fait conformes, quand on est trop grand, trop petit, trop gros, trop... Enfin, je sais pas, mais quand déjà physiquement, on n'est pas conforme, on se rend compte que c'est pas pour autant qu'on n'a pas de valeur. Ma mère, elle cochait toutes les cases. Ça aurait été plus difficile pour elle de s'en écarter.
Alors, il y a quand même une case qu'elle ne coche pas, et c'est quelque part le moyen aussi pour elle de peut-être de rester dans l'humanité, c'est qu'elle est malade,
oui.
C'est qu'elle est mélancolique, qu'elle a des phases de dépression régulières, quasiment tous les ans, graves, qui vont la conduire à avoir des traitements très lourds, des internements, de la sismothérapie, ce qui est quand même pas rien. Et donc son image de femme parfaite, invulnérable et très forte, et ben là, lâche.
Oui, oui, elle lâche, mais je pense que c'est la raison pour laquelle elle y tenait tant aussi. C'est parce que elle savait qu'elle était très fragile, cette image. Mais oui, oui, ma mère était, à l'époque, on disait maniaco-dépressive. Aujourd'hui, on dit bipolaire, mais en réalité, elle était que dépressive. Mais elle avait cette forme de la dépression qui est, d'origine génétique, assez fortement génétique, disons, puisque chez les jumeaux, il y aura 70% de chances de l'avoir quand un jumeau a cette maladie, l'autre a 70% de chances d'avoir la même chose. Alors une des choses que j'ai comprises aussi, c'est pourquoi elle a fait sa première dépression. Et j'avoue que je ne comprends quand même toujours pas très bien pourquoi ça n'a jamais été exprimé.
Il y a un silence dans cette famille quand même assez impressionnant.
Oui, je garde un point d'interrogation parce que je vois pas, je comprends pas parfaitement ça. Mais en tout cas, à partir du moment où elle a fait une première dépression, en fait, elle en a fait tous les ans. Après des vacances, en gros au mois d'août, quoi, parce que mes parents partaient en vacances en juillet au retour des vacances, elle faisait une dépression et c'était assez terrible pour elle et pour toute la famille, bien sûr. Elle disait des choses horribles. Enfin voilà, mon père partait parfois au travail et lui disait quand tu reviendras, tu me trouveras, je me serai jetée par la fenêtre avec les enfants, quoi. Donc elle était très très déprimée, ouais. Mmh. Et elle a fini par guérir grâce au lithium. En fait, c'est la première personne en France qui a pris du lithium.
D'accord.
Parce que mon père était documentaliste, il avait trouvé des articles en anglais là-dessus, et donc elle est allée voir son psychiatre avec l'article, et donc c'est la première à avoir pris du lithium. Mais alors c'est très bien, c'est très bien qu'elle ait évité les dépressions à répétition. En revanche, le lithium a quand même un effet qui écrète vraiment les pics, et donc qui d'une certaine façon peut aussi constituer une sorte de prison, puisque on va jamais être très triste, mais on sera plus jamais très gai, et il y a comme une sorte d'insensibilisation qui se fait qui, avec quelqu'un comme ma mère, ça n'allait pas l'aider à sortir des apparences.
Oui, tout à fait. On dévoilera pas toute l'histoire parce que c'est vrai qu'il faut que nos auditeurs et vos futurs lecteurs découvrent au fur et à mesure des pages. Mais moi, il y a quelque chose qui m'a frappée sans dévoiler grand chose. C'est le fait qu'à un moment, elle va renoncer à sa vie pour partir en maison de retraite. Et je me suis dit, alors qu'elle a connu les asiles, parce que c'était des asiles à l'époque, c'était comme ça, alors qu'elle a connu l'internement, alors qu'elle a vécu ça de manière récurrente, elle fait le choix, à la fin de sa vie, de retourner dans cet univers de claustration, en fait.
Alors
qu'elle a encore son mari, qu'elle a encore son appartement, qu'elle se retrouve, qu'elle est pas dans un dénuement ou dans une motivation particulière, c'est délibéré. Et moi, c'est quelque chose qui m'a frappé.
C'est ce que je pense. Alors, il y a mes sœurs sont pas forcément d'accord là-dessus, parce que il y a la version que c'est mon père qui l'a forcé. Mais moi, j'y crois pas, parce que moi, je l'ai toujours vue être plus forte que mon père. Et parce que une fois qu'elle y est allée, elle a refusé toute possibilité de retour. C'est-à-dire que pas une seule fois, elle n'a accepté, et ça, moi, j'étais témoin que ça lui a été proposé, de retourner chez elle. Jamais. elle est partie. Et donc, enfin, pour moi, c'est vraiment quelque chose de, mais, enfin voilà, mais dont je pense qu'en fait, elle était enfermée dans une espèce de boucle. Vous voyez qu'elle revivait la même histoire en boucle, sans arriver à s'en extraire, et des départs sans retour. Elle en avait vécu des dramatiques plus tôt. Et pour moi, je pense que elle a été, malgré sa grande intelligence, elle n'a pas été capable de faire un travail sur elle suffisant pour arrêter de répéter les mêmes traumatismes, en fait. Voilà, c'est mon interprétation, mais ça me paraît, enfin, en tout cas, ce qu'elle a fait colle bien avec cette interprétation. Voilà, c'est, enfin, parce que sinon, ça paraît complètement absurde. Ça paraît complètement fou, oui, d'aller se fourrer dans une maison de retraite quand on peut rester chez soi. Et c'est pas comme si elle avait pas aimé être chez elle. Enfin, voilà. Donc non. Enfin, donc il y a quelque chose pour moi de très profond, et de très profond et de pas maîtriser pour le coup. Et ça c'est quand même vraiment la grande leçon que je retire de la réflexion que j'ai eue en écrivant ce livre, c'est que c'est pas parce que les gens ont l'air de vouloir tout ce qu'ils font qu'ils sont pas mus parfois par des forces qui les dépassent complètement et qui leur font faire des choses qui sont mauvaises pour eux en réalité, parce que enfin voilà, c'est faut vraiment pas s'y aux apparences, quoi.
Oui, c'est tout à fait ça.
I am my mother's savage daughter, the one who runs barefoot, cursing sharp stones. I am my mother's savage daughter, I will not cut my hair, I will not lower my voice. My mother's child is a savage. She looks for her romance in the colors of stones, in the faces of cats, in the falling of feathers, in the dancing of fire, in the curve of old bones. I am my mother's savage daughter, the one who runs barefoot, cursing sharp stones. I am my mother's savage daughter, I will not cut my hair, I will not lower my voice. My mother's child dances in the darkness, she sings heathen songs by the light of the moon, and watches the stars and renames the planets, and dreams she can reach them with a song and a broom. Into this world through blood and through pain, and deep in our bones the old songs are waking, so sing them with voices of thunder and rain. We are our mother's savage daughters, the one who runs barefoot, cursing sharp stones. We are our mother's savage daughters, we will not cut our hair, we will not lower our voice.
Alors, on laissera les auditeurs découvrir ce qui se passe en termes d'interaction entre cette mère et ses enfants, ce lien qui n'existe pas ou qui se rompt, et comment ils se rompt et comment après il n'est pas rattrapable. Mais si le livre s'appelle « La Reine des Neiges » et tourne autour de ce personnage maternel, le personnage du père est très important aussi. Et on le voit apparaître en creux, d'une certaine manière, en arrière-fond, mais il est quand même très, très important.
Oui, alors dans ma vie, oui.
Et dans l'histoire aussi.
Oui. Et dans la vie de ma mère, certainement, oui. Oui. Mais disons que j'ai vraiment centré le. J'ai vraiment centré ma vision sur elle. Et je suis en train de travailler à un texte sur mon père, en fait.
Je crois que c'est nécessaire, là. Parce que
mais voilà, c'est...
On l'a vu.
C'est ce que je me suis dit.
On le voit émerger et on voit au-delà de cette apparence justement, on n'est pas dans le tout blanc ou le tout noir, on est dans un camailleux de gris où on s'aperçoit que la responsabilité n'est pas forcément portée que par une seule personne et que c'est tout un système qui est dysfonctionnel.
Ah mais complètement. Et en fait, mes parents se sont trouvés, je pense, parce que c'était quand même des personnes très différentes et c'était un couple un peu improbable puisque ma mère était parfaite, et mon père l'était moins, il n'était pas très beau, enfin il n'était pas affreux, mais il n'était pas très beau, il n'avait pas pu faire d'études, il avait pas mal de choses de handicap en fait, et lui il pensait que il resterait célibataire, enfin voilà, qu'il a... et donc quand il a compris que il allait pouvoir se marier avec ma mère, il a été complètement ébloui. Donc c'est un couple qui a pu paraître un peu improbable à l'époque, je pense, parce qu'ils se sont rencontrés au travail. Je pense que les collègues ont dû trouver ça bizarre, parce que ma mère, c'était la princesse, hein, c'était, on l'appelait comme ça, quoi. Et lui, c'était le coursier, quoi. Donc, mais par contre, je pense qu'ils se sont trouvés parce qu'ils avaient en commun, une espèce de valeur fondamentale, le culte du malheur.
Ouais.
Donc on a de la valeur si on est très malheureux. Ils étaient tous les deux très très malheureux.
J'allais dire, se marièrent, ils eurent des enfants et ils vécurent très malheureux.
Très malheureux, voilà. Et les enfants et vraiment, et ça pour le coup, c'est vraiment quelque chose qu'ils partageaient. Parce que mon père est, mon père est un personnage extrêmement complexe, mais par exemple, l'importance des apparences n'était pas très forte pour lui. Enfin voilà, il y avait et pour le coup, lui, du lien, il était capable d'en créer de façon parfois manipulatoire, perverse, mais il n'était pas du tout en dehors du lien. Et il était capable de donner de l'affection. Enfin voilà, il y avait vraiment beaucoup de choses différentes. Mais alors le culte du malheur, ça, quand même, c'était là-dessus, ils étaient bien en phase. Ouais. Et c'est compliqué de grandir dans une famille comme ça et de pas reproduire.
C'est sûr. Mais
je sais que, enfin, moi, je sais qu'à un moment, de toute façon, il fallait surtout pas, quand ça allait bien, il fallait surtout pas, je cherchais, mais sciemment, je veux dire, adulte, hein, je cherchais qu'est-ce que j'allais bien pouvoir trouver comme problème à raconter en le faisant, en le montant en épingle, et surtout pas dire que ça allait bien, parce que sinon, c'était fini, j'étais plus la fille de la famille.
Il y a un exemple qui est caricatural, c'est que, je sais plus si c'est l'occasion d'une première communion ou quoi que ce soit, où vous devez vous confesser, où vous trouvez pas ce que vous devez, ce que vous pouvez bien dire au curé au moment de la confession, et elle va vous faire une liste considérable. Et c'est à la fois une liste qui traduit ce culte du malheur et en même temps le fait de trouver tous ces enfants tellement imparfaits, tellement mauvais, tellement terribles. Et on est en permanence là-dedans, dans le fait de vouloir être mieux que ce qu'on est, parce qu'il faut aussi attirer l'attention. Et il y aura quelques fois où on voit dans le livre, vous trouvez grâce aux yeux de votre mère, mais par quel moyen, voilà, c'est toujours pareil, on va laisser découvrir. Mais on est dans un système de double contrainte en permanence.
En permanence, ouais. Mais par contre, enfin, c'est vrai que les quelques fois où j'ai fini par arriver à quelque chose, et en particulier, la dernière chose dont je parle, j'y repense régulièrement et je me dis que pour le coup, pour quelqu'un qui avait à ce point-là justement le culte des apparences, etc. Je trouve qu'elle a fait quelque chose de remarquable, vraiment. Et parce qu'elle n'était pas obligée de me le dire. Elle aurait très bien pu ressentir ce qu'elle a ressenti sans rien dire. Et le fait qu'elle me l'ait dit, je trouve que ça la sauve en fait un peu, parce que c'est un sacré. Il faut sacrément se moquer des apparences pour le faire. Ouais, c'est ce que je me. Enfin, quand j'y repense, je me dis que c'était assez fort quand même. Mais c'est pas arrivé souvent.
On va rester sur cette note positive. ça s'appelle La Reine des Neiges, c'est de Béatrice Hammer, c'est paru chez Avalon et compagnie. Donc le prochain, ce sera un livre sur votre père, où il y aura une fiction entre deux. Oui, non?
Oui, non, normalement, à vrai dire, en fait, j'ai besoin d'écrire ce livre. C'est un peu. C'est plus difficile que ce que je pensais. Le livre sur ma mère, je savais que ça serait dur. Le livre sur mon père, je pensais que ça allait venir tout seul. Et en réalité, c'est plus compliqué que je ne le pense. Mais j'ai vraiment le. Je sens qu'il faut que je l'écrive. Voilà. Donc je le fais. Et après, je retournerai à la fiction. J'ai plein d'idées. Mais je veux d'abord avoir fait ça.
Eh ben merci en tout cas Béatrice Hammer, j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler. Pour l'instant, découvrez La Reine des Neiges, c'est paru chez Avalon et compagnie, et vraiment merci.
Merci beaucoup.
Radio Libertaire, Radio Libertaire, Radio Libertaire, Radio Libertaire.
C'est toujours Radio Libertaire et c'était Béatrice Hammer qui nous parlait de son roman intitulé La Reine des Neiges, paru aux éditions Avalon, très très beau livre. Et dans quelques instants, nous allons retrouver Charles Dupéché pour un livre qui est paru au Mercure de France et qui raconte la vie très courte de Daniel List, fils de List et de Marie Dagout. Avec donc cet ouvrage intitulé Daniel List, un fils mal aimé. On retrouve tout de suite Charles Dupéché. Pour Radio Libertaire 89,4 MHz. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de pouvoir parler d'un ouvrage qui est paru au Mercure de France et qui s'intitule Daniel List, un fils mal aimé, et avec son auteur qui est Charles Dupéché. Et je vous remercie d'avoir accepté cet entretien et je vous remercie surtout d'avoir fait ce livre qui nous a fait découvrir un aspect totalement inconnu. Enfin, moi, je ne connaissais pas ce fils, je ne connaissais pas cette histoire et ça m'a beaucoup intéressée. Alors, avant de parler de Daniel, on va parler de ses parents si vous le voulez bien, mais moi, j'aimerais savoir ce qui vous a amené, Charles Dupéché, à écrire ce livre. Quelle a été votre motivation de départ ?
Écoutez, ça fait 40 ans que je travaille sur la comtesse Dagout, puisque j'ai publié un certain nombre d'ouvrages à son sujet. Et en travaillant sur elle, j'ai découvert l'existence de ce garçon qui a été vraiment mal aimé et dont les lettres, une grande partie des lettres à son père notamment, sont conservées à Bayreuth, au musée Richard Wagner. Et donc, en ayant accès à ces archives, j'ai découvert une personnalité rayonnante et j'ai envie d'écrire quelque chose sur ce garçon mort malheureusement à 20 ans. Il n'a rien fait vraiment, c'est plutôt une victime. Mais vu les parents qu'il avait, je trouve que c'était intéressant de restituer son destin.
Oui, tout à fait. Bon, moi, en tout cas, j'ai été très étonnée de la personnalité de ce petit garçon et ensuite de ce jeune homme. Mais avant de l'évoquer, on va parler, puisque vous avez cité Marie Dagout, on va rappeler à nos auditeurs qui était cette femme, parce qu'elle a quand même une histoire assez fascinante et remarquable. C'est une femme de lettres, c'est une femme qui tenait salon, c'est une intellectuelle, c'est une femme libre, et pourtant, au niveau de sa maternité, on va en parler dans quelques instants, c'était plus compliqué. Mais parlons d'elle d'abord.
Elle, c'est une femme fascinante qui est malheureusement, je dis malheureusement parce qu'elle est connue pour avoir eu une liaison avec Franz Liszt et elle est moins connue pour son œuvre littéraire. Donc je reviens sur son destin. C'est une grande aristocrate française qu'on a mariée avec un homme qu'elle connaissait à peine, dont elle a eu deux petites filles. Et à presque 30 ans, elle est tombée amoureuse de son cadet de 6 ans, le pianiste, parce qu'à l'époque, il n'était pas compositeur, Franz Liszt. Ils ont commencé une liaison secrète et la comtesse d'Agou, voyant qu'elle était enceinte, décida de tout quitter, son foyer, sa haute position dans la société française, très haute même, puisqu'elle fréquentait la cour, et elle est partie avec Franz Liszt en 1835 et ils ont vécu 10 ans d'une liaison publique, ce qui était très courageux à l'époque, et ils ont eu 3 enfants. Et malheureusement, cette liaison a pris fin pour des raisons variées en 1844. Donc la comtesse d'Agou est connue pour illustrer les grandes amours romantiques, un peu à la star de George Sand et de Frédéric Chopin. Mais je pense qu'elle serait malheureuse de savoir que son nom est passé à la postérité pour cette liaison, évidemment, puisqu'elle voulait beaucoup plus, elle prétendait à beaucoup plus, et elle voulait surtout laisser un nom pour son œuvre littéraire.
Alors, son œuvre littéraire, ce qu'il est peut-être utile de préciser pour nos auditeurs, c'est qu'elle a entre autres écrit l'histoire de cette liaison avec Liszt et qu'elle l'a écrit sous le pseudo de Daniel Stern.
Non, pas vraiment. Elle a écrit ses mémoires. Non, la liaison, elle n'en a pas vraiment évoqué dans ses mémoires. Elle a écrit donc un certain nombre de livres et d'articles, surtout de journaux, sous le nom de Daniel Stern. Mais sa liaison, on la connaît par un témoignage posthume par des manuscrits qu'elle a laissés après sa mort.
D'accord, donc c'est posthume. Vous évoquiez le fait, Charles Dupéché, qu'à l'époque, Liszt était un interprète. Ce que j'ai appris aussi en vous lisant, c'est que c'est lui, en quelque sorte, qui a inventé le récital de piano. Il a fait du spectacle à sa manière. Mais lui-même a un destin particulier. Vous le prenez alors qu'ils sont ensemble et qu'il devient père. Mais lui aussi a été un enfant qui a été un petit peu mis en avant dans son histoire de musicien.
C'est un enfant prodige, un peu comme Mozart, c'est-à-dire très jeune. Son père, qui était un intendant hongrois du prince Esterházy, a découvert les talents de son fils et il a décidé de le produire un peu dans toute l'Europe. Et le jeune Franz Liszt est devenu célèbre très tôt.
Alors, cette célébrité, c'est quelque chose qui va le poursuivre et le hanter, parce que ce qui m'a frappé, c'est que vous évoquez donc dans Daniel Liszt, Un fils mal aimé, paru aux éditions du Mercure de France, c'est qu'à la naissance de cet enfant est déclaré, donc à Rome, puisque la naissance a lieu à Rome, le nom de la mère ne figure pas, mais par contre, il y a le nom du père, l'illustre Franz Liszt. C'est quand même pas banal comme situation, comme acte de naissance.
Non, mais à l'époque, de toute façon, alors je rappelle que ce garçon, c'est le troisième enfant du couple qui naît. Premier garçon, et c'est le cinquième enfant de la comtesse d'Agoult, qui en avait eu deux filles avec son mari.
Dont une qu'elle avait perdue.
Pardon.
Dont une qu'elle avait perdue, qui était décédée.
Une qui est, malheureusement, qui est décédée à l'âge de 6 ans, oui. Et c'est ce qui a d'ailleurs déclenché un peu son départ avec Francis.
Tout à fait.
Quand elle, c'est une histoire un peu complexe, psychologiquement un peu complexe, puisque c'est à la mort de sa fille, juste après, qu'elle est tombée enceinte de Franz Liszt, alors qu'ils avaient une liaison depuis 2 ans au moins, et que donc il n'y avait eu aucun fruit de cette liaison jusque-là. Et ce qui est intéressant, oui, pourquoi le nom de Marie d'Agout, de la mère, donc, n'apparaît pas dans l'acte de naissance, l'acte de baptême, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'état civil,
tout à fait.
Non. Pourquoi il n'apparaît pas? Mais parce que la comtesse d'Agout étant mariée officiellement avec le comte d'Agout, que le divorce n'existait pas. Si elle avait reconnu cet enfant, il ne pouvait pas être de Franz Liszt, il aurait été automatiquement de son mari.
Oui.
Et comme c'était une femme très droite, il n'était absolument pas question de faire endosser cette paternité à son époux. Et donc, elle a préféré, comme pour ses deux filles nées avant, de se retirer et ne pas laisser apparaître son nom dans les actes de baptême de ses enfants.
Et mon esprit malfaisant fait dire que ça laissait plus de place pour écrire illustre concernant le père. Parce que quand
oui,
même...
mais alors ça, je pense, est-ce que c'était à l'initiative de Francis, on n'en sait rien, mais il était factuellement illustre et c'est ce que peut-être le curé a voulu mettre pour marquer la situation.
Alors, ils sont à Rome. Après ces péripéties européennes qu'ils ont pu connaître, ils sont à Rome, mais ils n'en vont pas pour autant s'occuper de l'enfant, parce qu'à l'époque, c'est vrai que souvent les enfants sont confiés à des nourrices, et ça va être le cas. On va lui trouver une famille qui va s'occuper de ce bébé, et très vite, on va s'en désintéresser.
Oui, de même que pour les deux filles du précédent mariage. Quand le petit Daniel est à Rome en 1839, donc les deux autres filles sont nées, mais elles sont chacune en nourrice. L'une a été laissée à Genève et l'autre à Côme, où elles sont nées. Et les parents ne les ont pas revues depuis quelques années. Et c'était l'usage à l'époque. En plus, ces enfants étaient un peu encombrants puisque c'était un couple itinérant. Et donc, Marie d'Agout les parents n'ont eu aucun scrupule, comme c'était l'usage à l'époque, de placer leur enfant aussitôt en nourrice.
Alors, ce qui est un petit peu choquant, vu depuis notre époque, c'est le manque d'intérêt par rapport à cet enfant, parce qu'il va avoir un parrain qui, lui, prendra de ses nouvelles, ira le voir dans la famille d'accueil, la famille nourricière, s'en souciera un peu. D'ailleurs, le récupérera dans des circonstances particulières, mais du côté des parents, il y a une espèce de jugement qui est porté d'emblée sur cet enfant, comme quoi il est laid, et plus tard, comme quoi il serait sot, il sera d'ailleurs surnommé Doum Doum. Il est victime d'a priori, alors que c'est un enfant qui est plein de talent.
Oui, alors ça c'est mon interprétation personnelle. Je pense que c'est un enfant qui n'était pas désiré de toute façon, parce qu'à l'époque où il est conçu, le couple, bien qu'il va encore qu'il tiendra encore quelques années, le couple est un peu tendu. Et donc, je pense que cette cinquième grossesse pour la comtesse d'Agout a été difficile. Et donc, quand cet enfant est né, il a été aussitôt considéré comme une charge plutôt que comme un bienfait.
Thank you.
du côté de son père, ce qui est aussi remarquable, c'est l'importance du nom. Il aimerait que les enfants soient à la hauteur de son nom et surtout ne lui fassent pas ombrage.
Oui, et parce que en fait, c'est un peu contradictoire. Il veut que les enfants soient dignes du nom de Lys, mais il ne veut pas que ses enfants deviennent célèbres pour que leur propre destinée éclipse la sienne.
Alors, on laissera nos auditeurs lire le livre, mais il faut quand même que nous parlions de Daniel, Charles Dupéché. Daniel Lys, un fils mal aimé, paru aux éditions Mercure de France. Parce que, au-delà de sa généalogie, moi, ce petit garçon m'a beaucoup ému, beaucoup touché. Je l'ai trouvé absolument. Vous évoquiez le terme de solaire, je crois, tout à l'heure. Je crois que c'est ça. Il est brillant, il est drôle, il est facétieux, il est imprévisible, malgré tout.
Et oui, c'est pour ça que je me suis attaché à lui. Oui. C'est qu'il est tellement étonnant. Il sort du cadre des enfants habituels. Il y a une anecdote que rapporte la comtesse d'Agoult qui est vraiment très troublante. Évidemment, l'enfant n'a pas eu conscience de ce qu'il disait, mais quand il avait 4 ou 5 ans, qu'elle lui a demandé « qu'est-ce que tu veux pour Noël ?» Et l'enfant, le petit garçon, répond « une conscience ». Et je trouve ce mot est extraordinaire.
Mais, au-delà de cette anecdote qui effectivement est révélatrice, tout son parcours est ainsi. Il est curieux de tout, il s'intéresse à la musique, vous suivez son parcours scolaire, et quand on voit ce qu'il peut apprendre, étudier, les correspondances qu'il peut avoir avec son père, les sujets qu'il aborde, je dois dire que beaucoup des sujets qu'il traite, je ne les connais même pas. Il a une culture, une soif de connaissances, une réflexion et une maturité qui sont absolument hallucinantes.
Oui, tout à fait. Alors, on peut dire que bon, il a pu quand même un peu profiter de la culture immense de sa mère, moins de son père qu'il a peu fréquenté. Mmh. Et cet enfant, un peu prodige d'une certaine façon, a voulu toute sa vie en glanant des lauriers scolaires extraordinaires. Il a voulu obtenir l'affection et l'intérêt de ses parents. Il a demandé sans cesse et il n'a rien eu en retour. Mmh. Les parents sont restés complètement ou quasiment indifférents à cette précocité intellectuelle, alors qu'ils auraient dû en être fiers.
Alors, non seulement il n'y a pas cette fierté, il faut dire qu'il a été séparé de sa mère pendant de nombreuses années également. Donc, il y a eu une mise à distance de par le conflit entre les deux parents qui était assez importante. De nos jours, on utiliserait le terme de résilience. Je ne sais pas si ça s'adapte là, mais ce qui est assez frappant, Charles Dupéché, c'est de voir que malgré les traumatismes itératifs que va subir cet enfant en termes d'abandon, de séparation, de perte de repères, voire on peut parler de négligence de maltraitance par négligence, cet enfant est toujours un enfant qui s'adapte à ses parents et qui veut être dans une attitude de leur plaire, de faire tout pour qu'ils le regardent. Il veut être vu et en même temps, il est invisible.
Oui, c'est assez tragique ce destin, mais il faut quand même ajouter que bien qu'il ait été rejeté par ses parents, il a quand même bénéficié de l'affection très grande de sa grand-mère, oui. Donc la mère de Franz Liszt, chez laquelle il a passé toutes ses premières années jusqu'à ce qu'on le mette en pension au lycée. Et si vous voulez, ça compense un peu. On ne peut pas dire qu'il n'ait pas eu d'affection, il n'a pas eu d'affection de ses parents, mais la grand-mère a été quand même merveilleusement attentive à son évolution.
Oui, et puis à la présence de ses sœurs aussi, qui sont là, qui sont à côté de lui, jusqu'à ce qu'elles soient envoyées en pension. Il y a quand même un amour très fort.
Les trois enfants Lys, c'est un véritable clan. Très, très, très serrés. Ils sont d'abord tous les trois sur le même bateau, je veux dire rejetés par leurs parents. Et donc, ça va les souder entre eux. Et jusqu'à l'âge adulte, ils vont s'écrire des lettres bouleversantes. Certaines nous sont parvenues. Et on voit une très, très grande complicité entre ces trois enfants.
Alors, il y aura de nombreuses péripéties et on va donc laisser nos auditeurs et futurs lecteurs du livre découvrir, voir comment va se terminer la relation entre les deux parents, voir la haine qu'ils vont pouvoir se vouer l'un à l'autre, voir comment ils se sont déchirés autour de l'éducation de ses enfants et ce que ça a pu engendrer, voir comment il a grandi et comment sa vie a été bien courte. Mais... Moi j'étais étonnée de voir comment cet enfant, avec tous les talents qu'il a pu avoir, avec cette capacité à nouer des relations et à s'adapter à tous, a pu être effacé ainsi.
Enfin, effacé par qui ? Parce que dans son entourage, au lycée, il était très reconnu par ses camarades comme étant très brillant. Il avait quand même beaucoup il recueillait autour de lui beaucoup d'admiration. C'était quand même un enfant rejeté par ses parents, mais dans son milieu social, extrêmement salué. Vraiment, ses amis reconnaissaient sa supériorité intellectuelle et morale, parce que c'était un garçon très droit, très religieux, et qui cherchait toujours à bien faire. En fait, il a passé sa vie à vouloir se montrer sous le meilleur jour et à se battre contre ses propres défauts. Enfin, il était vraiment en quête d'absolu.
Se battre contre ses propres défauts au point de les citer pour attirer l'attention de ses parents et pour dire qu'il va se corriger. Il bat sa culpe tout le temps.
Tout le temps, parce que, comme pour ses succès scolaires, il essaye d'obtenir l'affection et la reconnaissance de ses parents qui ne bougent pas.
Oui, et c'est ce contraste entre ce qu'est cet enfant et ce qu'est sa mère, parce que bon, du côté de Litz, on a vu qu'il y avait une histoire d'égo assez importante, mais bon, sa mère, femme cultivée, intellectuelle, qui va écrire beaucoup de choses sur beaucoup de sujets concernant l'évolution féminine, c'est quand même assez choquant.
Oui, on est surpris. Mais il faut bien dire que c'est assez courant chez les artistes ou les créateurs. L'ego est très fort et c'est eux qui comptent avant tout. Beaucoup d'écrivains vous diront que leur œuvre passe avant leurs enfants.
En tout cas, merci Charles Dupéché de nous avoir présenté Daniel. Daniel Lys, un fils mal aimé, paru aux éditions Mercure de France. Est-ce que vous avez déjà un projet pour un nouveau personnage, pour un nouveau récit ?
Absolument pas. Je continue mon travail sur la comtesse d'Agoult en espérant le mener à terme. L'année prochaine, je vais publier la correspondance qu'elle a entretenue avec George Sand à l'occasion des 150 ans de la mort de la comtesse d'Agoult. Ce sera une nouvelle édition et je travaille toujours sur le même sujet.
Eh ben, merci beaucoup en tout cas de nous avoir accordé cet entretien. Merci.
C'est moi qui vous remercie, madame. Merci. Merci. Thank you.
Radio Libertaire, Radio Libertaire, Radio Libertaire.
On arrive à la fin de cette émission sur Radio Libertaire. C'était donc Idéaux et Débats. Nous avons écouté Béatrice Amère nous parler de La Reine des Neiges paru aux éditions Alvalon et Charles Dupéché nous parlait de Daniel List pour Un fils mal aimé au Mercure de France. Voilà, nous, comme d'habitude, on se retrouve dans 2 semaines avec le grand plaisir probablement de rencontrer à nouveau quelqu'un qu'on aime beaucoup dans cette émission. Il s'agit d'Héry de Luca. Héry de Luca, qui est de passage à Paris et qui nous revient avec 2 ouvrages très différents. Le premier s'intitule « Récit de saveurs familières ». C'est bien sûr paru chez Gallimard. Il est question d'alimentation, de nourriture, à la fois sous l'aspect mémoriel et sous l'aspect scientifique, parce qu'il y a des interventions d'un nutritionniste, c'est assez étonnant. Et puis, Héry de Luca, on le retrouve aussi au travers d'un très très beau recueil de poésie, dont le titre suffit à vous donner l'ambiance, ça s'appelle « Récolte à la lumière du jour ». Voilà, tout ça c'est pour dans 2 semaines, et puis on évoquera également la rentrée littéraire avec des belles choses qui se profilent à l'horizon. D'ici là, restez à l'écoute de votre radio préférez et portez-vous bien.
Il avait opté pour la fuite, mais voilà, c'est l'impasse. Plus on se met à courir vite, moins on voit où on passe. À peine s'est-il retourné, de suite il doit faire front au fils de pute qui le coursait sur des générations. Retranché au bout de la branche, derrière c'est le vide. Malheur à celui qui se penche, c'est la vie qui décide. D'un côté ce qui s'est passé, de l'autre l'avenir. Définitivement oublié ou vague souvenir. Ah, la jolie généalogie. La branche, la sève, le sang, la fleur, le fruit. Ah, la jolie généalogie. Ah, ah. Longtemps, 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 jusqu'aujourd'hui. C'est le déclic, c'est l'instant de passer à l'action. Lorsqu'à court d'arguments, c'est l'allonge qui répond. Aveuglement rentré dedans la pointe du menton. Assurément serrer les dents, faire preuve de précision. Mais rien ne se passe comme prévu avec le vide au cul. Et cette branche qui se plie, se penche et puis remue. C'est comme si les types devant avaient déjà prévu ces feintes et ces enchaînements comme s'ils les avaient conçus. Ah, la jolie généalogie. La branche, la sève, le sang, la fleur, le fruit. Aujourd'hui. Il a vu venir le crochet, mais l'a laissé passer. Autant essayer de lutter contre des types armés. L'éclair en un instantané, le voilà couché. Sans peur et sans douleur, juste à la hauteur des fleurs. Les silhouettes des agresseurs, peu à peu sans visage, comme l'ombre.
et puis la fraîcheur de délicieux branchages. Son sang s'écoule sur le sol et vient alimenter la sève des racines molles avant de remonter le long du gigantesque tronc et jusque dans les airs. Sur la branche qui tient bon, il penche la tête en arrière. Le corps encore à l'agonie et le cœur au mystère. Il observe un petit fruit mûrir seul à la lumière. Ah, ah, ah. Ah la jolie généalogie. La branche, la sève, le sang, la fleur, le fruit.
Sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien, moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débats, livre et combat.
Je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée. À tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveaux disponibles de part de tranches de cible. À tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le grève comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mer. Que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse autour du garrot.